Bien, avant de commencer le cours, je voudrais adresser des remerciements sincères d'abord à ceux qui m'écrivent quelquefois régulièrement et d'une façon toujours très pertinente. Deuxièmement, à la personne qui a bien voulu m'adresser un exemplaire du sonnet de Plantin dont j'ai parlé la dernière fois. Sonnet qu'on peut trouver, paraît-il, imprimé dans le style de l'époque à la maison-musée de Plantin à Anvers. Et troisièmement, je remercie aussi la personne qui m'a adressé un texte très savoureux, je n'ai pas le temps de lire, sur l'organisation de la vie de travail à la campagne du philosophe Alain. Donc, merci à tout cela. Cela dit, ça souffre. Alors, je ne sais pas comment ça s'arrange. Bien. Alors, vous vous rappelez, je situe toujours là où j'en suis. Je suis donc dans cette seconde épreuve de celui qui veut écrire une œuvre. Et cette seconde épreuve comporte deux grandes parties. Et je suis dans la première de ces deux grandes parties que j'ai appelée la vie méthodique. J'ai parlé des lieux de travail, la maison, la chambre, la table, le lit. Cela veut dire qu'effectivement, j'ai tracé l'espace d'une solitude, ou tout au moins d'une semi-solitude. L'écrivain cherchant, quand il travaille, à être seul, mais tout de même entouré, je dirais, pas loin de ceux qu'il aime.
Oui, mais on n'en parlera pas.
Alors, je voudrais rattacher à cette solitude un thème dont je vais dire un mot, qui est le secret ou le semi-secret, la clandestinité ou la semi-clandestinité de l'œuvre en train de se faire. Bien sûr, il y a des écrivains, peut-être je devrais dire il y a eu, parce que peut-être je parle d'une littérature qui est passée, qui est disparue. Il y a eu donc des écrivains qui lisent à leurs amis, au fur et à mesure, l'œuvre en train de se faire. Les cas les plus connus sont ceux de Flaubert, n'est-ce pas, qui lisait à ses amis très proches, et encore plus de Gide. Kafka l'a fait, mais semble-t-il avec une certaine répugnance. Parfois, ses amis obtenaient qu'il leur lise ses manuscrits, mais jamais il ne sollicitait d'eux le moindre jugement. Enfin, ce soir. Et je m'excuse, mais c'est très agaçant. Parce que déjà, c'est très difficile.
Il y a trop de micros. Pardon. Il y a trop de micros autour de vous, ça fait une interférence.
Ah, voilà. Alors, comment on va faire? Alors, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Bon, on essaye. Écoutez, certainement qu'un carcarade se fera un plaisir de vous prêter sa cassette. Bon, je continue. Donc, il y a des écrivains qui avaient l'habitude de lire leurs œuvres à des amis en train, pendant qu'ils il l'a pesé. Mais disons que il semble que pour Flaubert, Gide et Kafka, il s'agissait toujours, disons, d'œuvres importantes, mais non pas de l'œuvre au sens monumental que je donne à ce mot. Et c'est significatif que l'œuvre monumentale, l'écrivain semble toujours se taire sur sa fabrication. Et si longue qu'elle soit, il semble vouloir la maintenir dans une certaine clandestinité. Et par exemple, au fond, si paradoxal que ce soit, nous savons très peu de choses de la recherche du temps perdu, de la façon dont Proust a écrit cette œuvre monumentale. Et Proust, malgré une énorme correspondance, a finalement très peu témoigné sur son grand projet, le trajet, l'aventure, etc. Et ce qui est piquant, c'est que cette remarque que je viens de faire, cette constatation que je viens de faire, Proust l'a fait avec le même étonnement que moi, sur qui? Eh bien, sur Balzac. Il a dit, la seule chose qui effraye un peu dans cette interprétation de son œuvre, c'est-à-dire Balzac donnant une valeur littéraire à mille choses de la vie qui jusque-là nous paraissaient trop contingentes, donc la seule chose qui effraye un peu dans cette interprétation de son œuvre, c'est que ces choses de la vie qui jusque-là c'est justement ces choses-là dont il n'a jamais parlé dans sa correspondance. Mais tout cela peut tenir au hasard des lettres que nous avons et même de celles qu'il écrivait. Alors je ne crois pas que ça tient au hasard des lettres, hein. Je crois que ouais, c'est plus profond et que l'œuvre monumentale qu'on est en train de faire, à partir du moment où on a en quelque sorte lancé le navire, eh bien l'écrivain répugne à en parler avant qu'elle soit finie. Je crois qu'il y a hiatus, coupure, rupture d'homogénéité entre la vie affective et la grande œuvre. Grande en ceci qu'elle est en train de se faire. D'où le silence de l'écrivain sur ses préparations. Comme si, tout simplement, il n'aimait pas parler de l'œuvre en train de se faire. Et ce peut être même, je dirais, en poussant les choses, ce peut être une sorte de critère. On peut parler, me semble-t-il, si j'interroge ma petite expérience, on peut parler à des amis d'un projet d'œuvre, c'est possible, si ce projet n'a pas encore pris, ou s'il n'a pas bien pris, c'est-à-dire s'il reste fantasmatique et verbeux. Mais dès que le projet a pris, dès que cela devient sérieux, alors il semble qu'on devienne automatiquement secret et comme jaloux. À la question « Qu'écrivez-vous en ce moment ?» question fréquente et bienveillante, mais comme beaucoup de questions bienveillantes, torturantes, qu'écrivez-vous en ce moment? Eh bien, je dirais, si je vous le dis, c'est qu'il y a bien des chances pour que je ne l'écoute pas. Vous pouvez juger de mon sérieux à vous répondre par le fait que je vous réponde ou non. Si je vous réponds, c'est que je ne suis pas très sérieux. Et si le travail est bien amorcé, si déjà j'ai investi dans ce travail tout moi-même, il est très probable que ma réponse sera évasive. Donc, à ceux qui veulent bien me poser cette question, à supposer que ça les intéresse ou que ça m'intéresse, si je ne réponds pas, ou si je réponds, j'écris des choses, eh bien ça veut dire qu'à ce moment-là, je suis effectivement en train d'écrire. Alors, quelles sont les raisons de cette tendance à la clandestinité de la préparation? Bien, premièrement, ça peut être une raison, disons, de pudeur, une impuissance à bien rendre compte de ce qui se passe quand c'est en train de se faire. C'est une répugnance ou une résistance à laisser voir, disons, la cuisine de l'œuvre. Vous le savez, de la même façon, bien des cuisinières ou chasse de la cuisine. C'est un fait bien connu. Que les cuisinières, tout au moins, autrefois, peut-être, je ne sais pas maintenant, mais vous chassent de la cuisine quand elles sont en train de travailler. Parce que la préparation, souvent, est peu ragoûtante, et sans rapport avec l'excellence du mets qui ensuite arrive pompeusement sur la table. Une préparation, en effet, est faite de reprise, de retour en arrière, d'incertitude, d'errement, et il y a une sorte de vanité à vouloir fixer par un compte-rendu tel moment dont on sait tellement il est peut-être déjà passé au moment où on le décrit. Je dirais que l'œuvre en train de se faire est de l'ordre de l'innommable. C'est l'innommable, l'œuvre en train de se faire. C'est à la lettre l'innommable, ce qu'on ne peut pas nommer. Et qui disait, vouloir la nommer, c'est, si vous voulez, se donner l'impression qu'on la réifie et qu'on va l'abîmer et qu'on va la bloquer. Enfin, il y a une espèce d'attitude magique. Par exemple, Flaubert, en 74, écrit à sa nièce Caroline la première phrase de Bouvard est écuché parce qu'elle le lui avait demandé, cette phrase célèbre. Comment ce Bouvard est écuché, il la lui donne comme une sorte de fétiche. Mais il ajoute, maintenant, tu ne sauras rien de plus d'ici longtemps. Je patauge, je rature, je me désespère, etc. Donc, ça c'est l'innommable, c'est ce qui ne se dit pas. Et pourtant, quelle œuvre, une fois fini. Deuxième raison possible, comme je l'ai dit, avant la recherche, Proust lisait à des amis ce qu'il écrivait. Mais quand il a écrit la recherche, il parlait très peu de son ouvrage. C'est peut-être qu'à ce moment-là, l'œuvre vécue comme monumentale, c'est l'œuvre d'une vie, passe à la catégorie du sacré. Elle devient sacrée. Et le mouvement de l'écrivain, c'est que quand il fait l'œuvre, c'est quand il fait l'œuvre que l'œuvre est pour lui vivante. Mais une fois qu'elle est faite, elle devient morte. C'est-à-dire au moment où elle devient vivante pour d'autres, c'est d'ailleurs une condition difficile, enfin, disons, faut pas exagérer, ça n'est pas dramatique, mais c'est une question assez inconfortable, d'après mon expérience, que d'avoir à assumer un livre comme vivant à partir du moment où il est publié, parce qu'à ce moment-là, il est vivant pour les autres, alors que pour soi, il est mort. C'est-à-dire, c'est le moment où on n'a vraiment plus envie d'en parler, et c'est à ce moment-là que la société vous demande d'en parler, surtout aujourd'hui, comme vous le savez, la pratique de l'interview a remplacé pratiquement la pratique de la critique. Il n'y a plus de critique de livre, presque plus, et quand un livre paraît, ben on demande tout simplement, ça facilite évidemment la tâche du journaliste, on demande à l'écrivain de parler de son livre. Et ça remplace la critique. Donc au moment où l'œuvre devient vivante pour les autres, que pour soi elle est morte et qu'on n'a plus envie d'en parler. Et elle est vivante et sacrée, l'œuvre, et par conséquent jalousement cachée, au moment où elle se fait. Et à ce moment-là, elle est sacrée, c'est-à-dire qu'elle est cachée comme un amour ou comme un dieu. La formule pascalienne du dieu, Deus absconditus, dieu caché, dieu atteignant en quelque sorte l'essence même du secret, du sacré par le secret, par le caché. Eh bien, on peut l'appliquer à l'œuvre, et on dit que l'œuvre en train de se faire est abscondita, ou opus abscondito. Troisième raison, on peut imaginer aussi une motivation, disons, psychologique, mais de toute manière, nous sommes toujours dans l'imaginaire de l'écriture. Il peut y avoir chez l'écrivain, en train d'écrire, un désir d'anonymat. C'est-à-dire le désir de ne se prêter à aucune image sociale et donc de ne rien livrer de lui-même. Hein? Le désir de couper toute induction d'image, même auprès des amis, et donc de supprimer toute confidence. Et on peut bien sûr considérer ce désir d'anonymat comme un mode hystérique. Pas je peux interpréter le désir d'anonymat comme une hystérie dont la formule serait ne faites pas attention à ce que je fais, ce qui veut dire effectivement occupez-vous de moi. Hein? Ne pas attention à ce que je fais, ça veut dire aimez-moi, occupez-vous de moi, selon une interprétation hystérique. Mais pour nous, ça n'a pas d'importance. Ce qui importe, c'est la douleur de toute rupture d'anonymat. L'écrivain peut alors, pour préserver la clandestinité de son œuvre en train de se faire, il peut, pour préserver cette clandestinité, faire semblant de faire autre chose. Il peut accepter de jouer un certain jeu social, une certaine apparence mondaine, pour masquer le fait qu'il travaille à une œuvre importante. Et Kafka a deviné l'avantage de ce jeu quand il dit, en parlant de lui, il considérait toute autre solution qu'une vie entièrement consacrée à la littérature comme une construction artificielle destinée à satisfaire son entourage et à éviter que l'attention générale ne se tourne vers lui. Enfin, quatrièmement, la volonté de clandestinité peut être, disons, l'acceptation philosophique d'une donnée tragique, à savoir que l'écrivain est, au fond, responsable de son écriture. Il est traversé de part en part par cette responsabilité et il ne peut la déléguer à personne tant que l'œuvre n'est pas faite. Tant que l'œuvre se fait, il y a un sentiment écrasant de responsabilité solitaire, de responsabilité individuelle. Qui est responsable du texte? Qui est responsable du texte? Eh bien, moi, le premier. Et on ne peut sortir de cette contrainte ou de ce destin. C'est moi le premier qui suis responsable de mon texte. C'est de moi que, à propos du texte, viennent les blessures les plus ineffaçables, les déconfitures, les affolements, etc. Alors, certes, l'œuvre, une fois faite, avant d'être publiée et livrée au public, disons qu'un regard amical et vigilant peut suggérer des fautes, des oublis dans l'œuvre. On peut donner son manuscrit à lire, une fois que c'est fini, à un ami proche en qui on a confiance. Et cet ami va vous aider par des remarques, disons, de détails. C'est-à-dire que l'ami peut intervenir ponctuellement sur des phrases ou au besoin des paragraphes. Mais il s'agit au fond toujours de tâches de nettoyage et non d'élaboration. Le conseil, c'est-à-dire le conseil donné à l'écrivain, on en reparlera plus tard, ne peut se situer que très en aval de l'œuvre, quand le projet n'en est pas formé, ou très en amont, quand l'œuvre est finie et qu'il s'agit de nettoyer des virgules ou des mots, à ce moment-là, le conseil d'un ami peut être utile, ou très en amont, quand le projet est encore très vague et où une conversation avec un ami va vous aider à préciser ce projet. Tout cela, c'est-à-dire toute l'élaboration d'une vie méthodique, d'une vita nova, a pour viser une activité redoutable par sa richesse d'ambivalence, de plaisir et de déplaisir, de loi et de jouissance, auxquelles on donne un nom qui est travailler. Travailler, qui, vous le savez, est intransitif comme écrire. Je ne peux pas vous voir en ce moment parce que je travaille. Intransitif. Ou à la rigueur, partitif. À quoi est-ce que vous travaillez en ce moment ? C'est-à-dire, dans l'univers absolu du travail en soi, quelle partie est-ce que vous découpez? Alors, je voudrais faire remarquer d'abord que tous les grands écrivains, en mettant des guillemets, c'est-à-dire ceux qui ont produit une œuvre monumentale, unique ou en morceaux, ont été animés, ça je voudrais faire remarquer ça tout de même, c'est que tous ces grands écrivains du passé, donc peut-être aujourd'hui, mais finalement j'ai moins de renseignements sur les écrivains directement contemporains, que sur ceux du passé, tous ces écrivains ont été animés, doués d'une volonté, au sens platement psychologique, d'une opiniâtreté, d'un entêtement, d'un courage absolument incessant. Volonté de travail, volonté de correction, volonté de copiage, qui s'exerçait dans toutes les conditions possibles. Lisez les vies de ces grands écrivains, vous serez ahuris en général par le courage, l'opiniâtreté, la volonté que l'activité d'écriture représente. Vous les voyez tous continuer à écrire en dépit de toutes les circonstances, à travers des difficultés de santé, à travers des inconforts, à travers des misères affectives, à travers des misères corporelles, toujours une énergie inflexible est en action. Pensez aux extraordinaires voyages de Chateaubriand, pas qui a écrit une œuvre considérable, monumentale en ce qui concerne les mémoires d'outre-tombe, toute sa vie. Et relisez ses mémoires, vous verrez à quel point il voyageait, je vous l'ai déjà dit. Il voyageait tout le temps, dans toute l'Europe, je ne parle même pas de l'Amérique, mais dans sa phase adulte, il a voyagé dans toute l'Europe. Et à tout instant, il prenait, non pas l'avion, mais la voiture, la diligence ou la calèche, n'est-ce pas ? Plutôt la calèche. Et il voyageait absolument, il sillonnait l'Europe, n'est-ce pas ? De Paris à Rome et de Rome à Prague, et il recommençait sans cesse. Donc le travail de l'écriture, je pense aussi évidemment à Michelet, qui est un homme qui avait des difficultés de santé, qui avait des migraines célèbres, et qui malgré tout a fait une œuvre absolument volumineuse et considérable. Donc le travail de l'écrivain, je dirais que ce qui me frappe, c'est qu'il est en quelque sorte insubmersible. On ne peut le couler, il flotte toujours, quoi qu'il arrive, il remonte. L'image simple et forte appelée par cette obstination de travail, c'est celle du bon ouvrier. L'écrivain est un bon ouvrier, au sens simplement de passéisme du mot. Par exemple, Flaubert, quand il a 24 ans, mais il aurait pu le dire aussi beaucoup plus tard, écrit « Malade, irrité, en proie 1000 fois par jour à des moments d'une angoisse atroce, sans femme, au pluriel, sans vie, aucun des grelots d'ici-bas, je continue mon œuvre lente, comme le bon ouvrier qui, les bras retroussés et les cheveux en sueur, tape sur son enclume, sans s'inquiéter s'il pleut ou s'il vente, s'il grêle ou s'il tonne. » C'est une sorte de division du travail psychique qui fait que, quoi qu'il arrive, la partie du travail d'écriture est maintenue, d'une façon, je le répète, insubmersible. Ce sont deux ondes distinctes qui ne se croisent et ne se contrarient, pour ainsi dire, jamais. L'onde laborieuse et l'onde passionnelle. Et, si vous me permettez, comme toujours, de temps en temps, de faire des allusion à des souvenirs personnels, je me rappelle avoir éprouvé une véritable stupéfaction à l'égard de moi-même, parce que c'est finalement soi-même qui s'étonne le plus de soi-même, là où les stupéfactions sont les plus grandes, quand soi-même on s'étonne, en tout cas ça m'arrive souvent. Et j'ai été stupéfait car un jour, en remémorant, je ne sais plus pour quel besoin ou nécessité, certaines dates de ma vie, j'ai constaté qu'une époque de ma vie qui avait été donc marquée, enfin j'en avais le souvenir, j'en ai encore le souvenir très vivace, disons discrètement, par une crise passionnelle d'une extrême intensité, dont j'avais le souvenir qu'elle m'avait complètement démoli, défait, déshumanisé, dépersonnalisé presque, eh bien quand j'ai regardé les dates, j'ai vu que cette crise passionnelle recouvrait très exactement le temps où, mois après mois, j'ai écrit les mythologies. Ce qui est une chose qui est pour moi absolument incompréhensible, dans la mesure où les mythologies étaient des chroniques à faire mensuellement, ça impliquait une très grande régularité. De plus, c'était un regard qui n'avait absolument rien de passionnel sur la vie sociale, qui a un regard plutôt critique, parfois un peu ironique, aucun rapport avec la passion. C'est-à-dire que ce que je vivais d'un côté ne passait absolument pas dans ce que j'écrivais de l'autre. Et j'avais beau être complètement démoli et probablement perdre beaucoup de temps à vasouiller, si vous permettez l'expression, sur mon lit ou à ne rien faire par désespoir, eh bien néanmoins, immanquablement, j'en venais à écrire chaque mois mes 3 ou 4 chroniques pour la revue de Nadeau de l'époque qui s'appelait Les Lettres Nouvelles. Et c'est là une chose qui m'a toujours stupéfié. Deux autres images sont possibles, je vais vous les dire, et on les trouve chez Flaubert. Deux autres images de cette espèce d'obstination extraordinaire de l'écrivain à travailler. Et on les trouve chez Flaubert, et je vais dire un mot de leur rapport et de leur contradiction, et de leur résolution dialectique. La première image, c'est l'image, pour l'écrivain, du forçat ou de l'ascète. Le travail de l'écrivain, en effet, c'est un bagne où c'est une ascèse folle. Flaubert, à 31 ans, dit « J'aime mon travail d'un amour frénétique et perverti, comme un ascète, le cilice qui lui gratte le ventre. » Et le bénédictin aussi, à 25 ans, Flaubert écrit à Louise Collet « Travaille chaque jour patiemment, n'est-ce pas, il lui donne des conseils, puisqu'elle voulait écrire et qu'elle a écrit d'ailleurs. Alors il lui donne des conseils d'écriture et il lui dit « Travaille chaque jour patiemment un nombre d'heures égales. Prends le pli d'une vie studieuse et calme, lui goûtera d'abord un grand charme et tu en retireras de la force. » Alors l'image de l'ascète ou du bagnard implique évidemment une domination de la loi, avec un grand L. Et je crois que ce départ est en quelque sorte juste, parce que l'œuvre est désir, l'œuvre est potention de jouissance, potention vers une jouissance, mais, je le crois encore, quels que soient les soubresauts de la doctrine psychanalytique, il n'y a pas de désir sans loi, je le crois. Il n'y a pas de désir sans loi. Sans loi quelque part. Bien sûr, il faut savoir où. La loi n'est pas forcément dans la morale et à plus forte raison dans l'État, bien sûr. Mais quelque part, il y a de la loi et c'est pour ça qu'il y a du désir. Et peut-être qu'on pourrait décrire certains problèmes, disons, certains États d'une certaine jeunesse, comme on dit aujourd'hui, comme le fait que l'abolition ou la perte d'intérêt donc l'œuvre est elle aussi comme l'ombre nécessaire de la loi. Et la loi est bien sûr terrorisante, puisqu'elle dit « travaille tout le temps, toute minute perdue pour l'œuvre est une faute. » Voilà ce que dit la loi. Mais la loi, heureusement, est dialectisée. Elle prend la forme d'une loi supportable qui est voulue par le sujet. Le sujet s'y soumet dans la mesure où la loi, où elle devient à ce moment-là respirable. Et c'est le moment où la loi devient règle. Pour ma part, je fais une différence d'une extrême importance, à la fois théorique et sur le plan de la viabilité, du fait de pouvoir supporter la vie et l'organiser, entre la loi et la règle. Disons qu'en gros, je suis contre la loi, bien sûr, mais je suis pour la règle. Et l'incarnation de la règle, bien sûr, qu'est-ce que c'est dans la quotidienneté? C'est l'horaire. C'est l'horaire. Alors, il y a bien sûr des types d'horaires de l'écrivain, du travailleur écrivain. On en connaît certains de ces horaires, du moins j'en connais certains, et ils ont pour moi, je dois dire, une sorte de charme, tous ces horaires d'écrivain, dans la mesure où ils sont règles, et une règle que je crois suivie, et donc à ce moment-là qui me fait envie.
Chacun de ces horaires a une figure particulière. Je vais vous en dire quelques-uns, même si cela vous paraît un peu monotone, mais de toute manière, ça sera bref. Et peut-être parmi vous, deux ou trois qui s'intéressent aux horaires. D'ailleurs, je l'ai dit, reçu un témoignage d'un certain horaire de travail du philosophe Alain, avant même que je parle des horaires. Ceux qui s'intéressent aux horaires, s'il y en a parmi vous qui s'intéressent aux horaires, bien, je serai à ce moment-là justifié de faire état des horaires que je connais. Alors, le plus connu, c'est celui de Proust. Il est spectaculaire parce qu'il est rigoureusement inversé. Pas la nuit, le jour, je ne veux pas y revenir. Je me couche à 6 heures du soir ou à 7 heures, comme les poules. On me réveille à 1 heure du matin. Et je travaille jusqu'à 8h30 du matin. Puis, je prends quelque chose de peu substantiel, une tasse de café pur, et je m'attelle à mon fiacre, toujours l'image du bagne de la Seine, n'est-ce pas? Je m'attelle à mon fiacre jusqu'à 4h. À ce moment-là, je reçois, je prends un bain, ou je sors, et après dîner, je me couche. Et je recommence, bien sûr. Alors là, ce qui est intéressant, c'est je prends un bain. Moi, ça m'intéresse beaucoup, ça. Je prends un bain parce que je me rappelle avoir connu autrefois, enfin avoir disons, parlé avec un romancier, parle plus beaucoup maintenant, je crois, qui m'expliquait, j'avais très bien compris ce genre de confidence comme ça, qu'il ne se lavait jamais avant de travailler. Il se lavait après avoir travaillé, parce que, vous savez que les conduites les plus folles, ou en tout cas les plus individuelles, on leur donne toujours des alibis extrêmement rationnels. Enfin, alors il disait que si on ne se lavait pas, on avait la tête en quelque sorte plus chaude et le sang circulait mieux dans le cerveau. Et donc il ne fallait pas se laver avant d'avoir travaillé. Voilà pour Balzac. Flaubert, tu me demandes ce que je deviens. C'est une lettre, hein, il a 37 ans. Voici, je me lève à midi et me couche entre 3 et 4 heures du matin. Je m'endors vers 5. Et il ajoute, je vis d'une façon farouche et extravagante qui me plaît fort, sans un événement, un bruit. C'est le néant objectif complet. Kafka, surtout à partir de 1912, qui est la période productrice, qui s'appelle sa vie de manœuvre, vous voyez toujours l'image de l'ouvrier, n'est-ce pas, un bon ouvrier, sa vie de manœuvre, il va au bureau, n'est-ce pas, dans cette compagnie d'assurance à Prague dont il était conseil juridique. Il va au bureau de 8h à 14h, il fait la sieste, au sens large du terme, disons, de 15h à 19h, il se promène 1 heure, il dîne en famille, mais le dîner a lieu assez tard, et il travaille à partir de 11h du soir jusqu'à 3h du matin ou plus. Ça, c'est l'écriture. À titre plutôt de choses, disons, un peu rigolotes, c'est l'horaire de Schopenhauer, dont j'ai déjà pointé l'originalité en matière de décoration des murs de sa chambre. Voici quelles étaient ses habitudes à la fin de sa vie, c'est-à-dire qu'il habitait Francfort et qu'était sa période de gloire. Vous savez qu'il est mort en 1860. Alors, on nous dit que, été comme hiver, il se levait à 8 heures le matin, et contrairement à ce romancier dont j'ai parlé, et à Balzac, il faisait tout de suite sa toilette à l'eau froide, surtout les yeux, parce qu'il pensait que l'eau froide était favorable aux nerfs optiques. Toujours les alibis, n'est-ce pas? C'est ça qui est merveilleux. Il se préparait un copieux petit déjeuner. Il ne voulait pas de servante le matin, c'est pas, il était célibataire. Il travaillait jusqu'à 11h, c'est-à-dire vraiment pas beaucoup. C'est à peu près en gros de 9h à 11h. Mais il avait déjà, disons, fait son œuvre, n'est-ce pas? Il avait déjà une gloire de philosophe, il avait déjà une philosophie. À 11h, il recevait des amis qui venaient commenter sa philosophie, les articles parus sur lui. Avant le déjeuner, ceci est bien gentil d'ailleurs, et je me sens très proche de cette habitude transposée, il faisait un quart d'heure de flûte. Il jouait du Mozart, du Rossini. À midi juste, il se rasait et il déjeunait. Puis, il faisait une courte promenade en smoking et cravate blanche. Je n'ai pas trouvé l'alibi. Il faisait ensuite une courte sieste où il prenait son café. Et dans l'après-midi, de nouveau, de longues promenades dans les environs de Francfort, avec son caniche dont je parlais, et ou une baignade dans la rivière qui passe à Francfort, c'est-à-dire le Main. Il fumait des cigares, mais la moitié seulement à cause de la nicotine. À 18h, il allait à ce qu'on appelait casino, pour lire, une espèce de cercle, disons, pour lire les journaux. Il dînait à l'hôtel d'Angleterre, en mangeant surtout de la viande froide et du vin rouge, et il ne prenait pas de bière à cause du choléra, toujours les amis. Voilà, et le soir, parfois un concert ou un théâtre. Voilà donc pour quelques écrivains ou penseurs, trouveraient aussi des mêmes problèmes chez des artistes, par exemple Liszt à Weimar, travaillait de 5h du matin à 8h du matin, puis il allait à l'église, il se recouchait, et à partir de 11h, il recevait des visiteurs. Alors, une direction d'analyse possible pour tous ces horaires, ça serait de voir en quoi ces horaires individuels qui appartiennent à un temps passé, ce que je viens de citer, en quoi ces horaires s'accordaient à l'horaire général du temps, de l'époque ou du pays. C'est-à-dire, en quoi, finalement, ils étaient individualistes. C'est ça qu'il faudrait chercher. Enfin, il ne faut pas les lire dans l'absolu par rapport à nous. Il faudrait savoir exactement en quoi ces horaires étaient individualistes. C'est-à-dire en quoi ils pouvaient renvoyer à une contrainte professionnelle, dans le cas de Kafka, qui était employé de bureau. Flaubert et Balzac n'avaient pas d'obligation professionnelle. En quoi aussi, ces horaires peuvent renvoyer à une originalité qui est protectrice, souvent, comme je l'ai suggéré. Et aussi, en quoi ces horaires renvoient éventuellement à une contrainte, je dirais, différentielle des types d'écriture. Est-ce qu'on pourrait, c'est une question que je pose, établir une sorte de rapport analogique, ou en tout cas homologique, entre ces horaires et le mode d'écriture de l'écrivain, par exemple la philosophie, les romans très coulés, très fleuves, les nouvelles, les essais, etc. Mais pour en rester à même l'existentialité de l'horaire, moi je vois à l'horaire, c'est-à-dire à la règle horaire de la journée, moi personnellement je vois une double justification. La première, c'est d'assurer à tout prix, j'ai déjà dit, une tranche continue de travail et de protéger cette nappe, cette plage de travail contre toute cassure. Et je dirais, c'est là une décision à maintenir en vertu de son artifice maître. Balzac est absolument formel, je cite, « Il m'est impossible de travailler quand » Alors là, il y a une chose très drôle, c'est que le jour où j'ai préparé ce cours et où j'étais en train d'écrire cette phrase de Balzac, il m'est impossible de travailler quand, après le mot quand, j'ai été interrompu par la visite d'un ami. Parce que la phrase c'est, il m'est impossible de travailler quand je dois sortir et je ne travaille jamais pour une heure ou deux. C'est-à-dire au moment même où j'écrivais la proclamation de foi du temps continu, le destin, qui est toujours malicieux, m'a envoyé un ami qui m'a cassé ma phrase à ce moment-là. Donc ça, c'est la première justification, assurer de toute manière une tranche continue de travail. Et la deuxième justification, c'est en même temps, dans la mesure où l'horaire veut dire une interruption qui est réglée, permise, puisqu'il y a un moment où on s'arrête, l'horaire, ça veut dire qu'on change d'occupation. À un certain moment, eh bien, changer d'occupation d'une façon régulière, qui revient régulièrement, c'est ce qu'on appelle tout simplement un rythme. Donc, l'horaire implique un rythme. Et le rythme, c'est capital. Je cite Bachelard, le rythme, c'est ce qui dure le plus et qui recommence le mieux. Le rythme est un facteur de durée. Plus, même en musique, vous pouvez bien voir que plus une musique, enfin, il y a une grande affinité entre les musiques à rythme, disons très spectaculaire, parce que toute musique est rythmée, mais les musiques à rythme très extraverti, très spectaculaire, ont beaucoup d'affinité avec les musiques qui durent très longtemps, des genres du genre répétitif. Donc le rythme est un gage, une assurance de durée. Et d'ailleurs Bachelard dit, pour durer, il faut se confier à des rythmes, c'est-à-dire à des systèmes d'instants. Le rythme, au fond, c'est un facteur d'immortalité. Et c'est pour ça que quand on vieillit, ou comme dire pudiquement, quand on avance en âge, on ressent la nécessité d'avoir une vie régulière, une vie rythmée. Et pourquoi? Parce que le rythme, justement, fait durer. On le sent obscurément. Et en général, il n'y a rien de plus régulier, si vous prenez même la vie française la plus quotidienne, la plus banale et la plus actuelle, je suppose qu'il n'y a rien de plus fréquent que quand quelqu'un prend sa retraite, le fait qu'il se soumet à un horaire. C'est précisément dans les périodes de retraite qu'on observe des horaires. C'est-à-dire qu'on observe un rythme, c'est-à-dire un système d'instant, comme dit Bachelard. Alors, ça ne veut pas dire, bien sûr, que l'horaire résout tout. Comme règle, l'horaire est une loi supportable, non folle, un point de loi, mais tout de même, c'est un peu de loi. Donc, une source possible de faute. On pourrait dire, si vous voulez, que la loi absolue, c'est une sorte de psychose, tandis que la règle, c'est de l'ordre de la névrose, ça touche à l'obsessionnalité, bien sûr, et l'horaire, dans cette névrose, est vécu comme une fragmentation forcenée, une classification des temps. Et cette classification des instants, l'aspect névrotique de cette classification est très typique chez Tolstoï. Par exemple, il écrit sur ses carnets, et il s'adresse à lui-même, n'est-ce pas, la parole, et un but pour toute ta vie, alors vous allez voir combien c'est obsessionnel, et un but pour toute ta vie, et un but pour une certaine époque de ta vie, un but pour un certain temps, un but pour l'année, pour le mois, pour la semaine, pour le jour et l'heure et la minute, en sacrifiant les buts inférieurs à ceux qui sont supérieurs. Et l'obsession entraîne évidemment une comptabilité, n'est-ce pas ? L'obsessionnel est quelqu'un qui compte, fait des comptes, qui comptabilise, qui énumère. Je rappelle le cas de Loyola à la fin de sa vie, comptant avec des signes graphiques qui sont d'ailleurs restés assez mystérieux. Ses pleurs, ses accès de pleurs, c'est pas parce que il éprouvait ses envies de pleurer, enfin son émotivité de pleurs, pour lui était un signe de la présence de Dieu en lui à certains moments. Par conséquent, il marquait sur des carnets, sur un journal, par des signes particuliers, non seulement les fois où il pleurait, mais en plus, alors c'est là où les signes deviennent, on ne sait pas les déchiffrer, l'intensité de ces pleurs, en fait, qui traduisait évidemment une intensité différentielle de la visite de Dieu en lui. Et donc l'obsession entraîne une comptabilité, et c'est ce qu'on Tolstoï continue, est toujours un tableau où soient déterminées toutes les plus menues circonstances de ta vie, même le nombre de pipes à fumer par jour. Et donc, dans la perspective obsessionnelle, le programme devient, l'horaire devient précisément un programme, c'est-à-dire qu'on vit l'horaire au futur comme un programme qu'on se donne, et on le raffine au futur. Tolstoï, par exemple, voilà le programme parmi les milliers de programmes qu'il s'est donné, parce que le propre du programme, c'est la multiplicité, naturellement. Se lever à 5 heures, se coucher à 9 heures ou 10 heures, et on peut dormir 2 heures dans la journée. Manger modérément, pas de douceur. Pas de douceur parce qu'en fait, le pauvre, il en avait très envie, de douceur. Et il ne pouvait pas s'arrêter de manger des raisins secs. Et donc, il devait réagir contre cette envie que d'autres ont toujours envie de manger des amandes, par exemple. Alors lui, c'était les raisins secs. Troisièmement, marcher une heure à pied. Quatrièmement, exécuter tout ce qu'on s'est fixé. Ça, c'est pas facile. Quatrièmement, une femme ou deux par mois. Cinquièmement, faire tout autant que possible soi-même. Alors, cette obsession de l'horaire est liée donc à la pratique, ou disons à la manie des programmes, manie peut-être historique, manie sociale, manie étatique. Nous sommes dans un ère des programmes, de la programmation, ça c'est certain. Il y a un mythe du programme. Eh bien, là aussi, pour l'écrivain obsessionnel aussi, c'est-à-dire le fait d'avoir des papiers devant soi, devant sa table de travail, n'est-ce pas, de se fixer des règles de conduite, des règles, ce sont des expressions de Tolstoï, des règles pour le développement de la volonté, des règles intérieures, des règles de vie, etc. Alors, le problème de l'horaire, c'est effectivement de le tenir, car sa régularité, sans cette régularité, il n'a aucune efficacité, est miné et menacé par les dérangements, c'est-à-dire par les autres. Je voudrais ici rappeler l'épitaphe assez terrible que Valéry s'était imaginé. Il avait demandé qu'on mette sur sa tombe, qui est la suivante. « Si j'y, moi, tué par les autres. » Donc, l'horaire est miné, menacé par des circonstances, des dérangements, des circonstances qui sont toujours exceptionnelles, c'est-à-dire des cas d'espèce, par des dégoûts, par des flemmes, et aussi par cette dernière ruse qui consiste parfois à entrevoir dans un éclair mauvais la vanité du dispositif, et de l'entreprise et du but. Alors, je crois que contre cela, la solution, c'est effectivement, on ne peut dire que des paroles très, très banales, comme toutes les paroles de sagesse sont banales. La solution, c'est de ne pas se décourager. C'est-à-dire, quand on lâche son programme, son horaire, un jour, quand on le lâche une semaine, eh bien, il faut, dès que c'est possible, reprendre l'horaire. Le secret du travail d'écriture, à mon sens, est de fonctionnariser le travail, d'en faire une tâche, de se rendre soi-même fonctionnaire de son propre travail, et comme on le sait, les fonctionnaires arrivent au bureau à l'heure, hein, et ne manquent pas le bureau, sous des prétextes divers. Hein. Donc, le bureau, par exemple, où ça minait chacun, eh bien, il faut transférer, il faut faire de la table un bureau où l'on va à des heures régulières. Il faut lutter contre le paradoxe, car j'ai toujours été frappé par ce paradoxe, je dirais très exaspérant, qui veut que on concède à l'aliénation professionnelle, le fonctionnaire qui va au bureau. C'est-à-dire, on lui concède, à savoir la régularité, ce qu'on ne défendrait pas pour ce qui nous est pourtant vital. ce qui est aberrant, c'est d'accepter de ne commettre aucune infraction à l'égard d'une loi qui nous est complètement extérieure, qui est celle du bureau, par exemple, et d'accepter des concessions pour ce qui, en fait, nous est beaucoup plus vital que le bureau. Il y a là une sorte de paradoxe et il faut toujours en prendre la mesure. Et je dirais qu'il faut toujours penser l'écriture en termes de musique, de technique musicale. D'ailleurs, j'ai trouvé ce mot de très juste de Tolstoï aussi, quand il travaillait dans La guerre et paix, et il disait « Il me faut travailler comme un pianiste ». Effectivement, pourriez-vous apprendre du piano, ou du chant, ou d'ailleurs n'importe quel instrument de musique, sans travailler tous les jours? Ça ne serait pas possible. Je ne crois pas qu'on puisse apprendre aucun instrument de musique si on ne travaille pas tous les jours. La technique du jeu musical est une technique qui exclut radicalement le paracoup. Le paracoup n'est absolument pas rentable. Par exemple, je crois que on peut devenir un bon amateur de chant entre 20 et 25 ans, 18 et 25 ans. On peut devenir un bon amateur de chant si on travaille, disons, en gros, une demi-heure par jour. Mais il faut travailler cette demi-heure tous les jours, sans jamais s'arrêter. De même, je ne crois pas qu'on puisse devenir un amateur de piano, ou en tout cas s'entretenir dans un jeu de piano, sans travailler, disons, au moins une heure par jour. Et cela tous les jours. Pas la peine d'essayer si on ne travaille pas tous les jours. Car on peut penser par inspiration, mais on ne peut écrire que par labeur. J'arrête ici avant d'aborder la conclusion de cette première partie de la seconde école. Quelques instants. Il nous faut ne pas perdre trop de temps parce que, comme vous le savez, le cours proprement dit, c'est-à-dire sur l'œuvre comme volonté, se terminera dans deux et aussi à un tout autre mode de travail avec Proust et la photographie. Mais bien sûr, j'en parlerai le moment venu, dans la mesure où ça, malheureusement, ça impliquera certaines modifications de l'espace ici. Je pense à ceux qui sont derrière moi et qui ne pourront plus être derrière moi. Et s'ils veulent voir les très belles images, ils viendront ici. Mais nous parlerons de cela quand le moment sera venu. Alors donc, j'ai parlé de l'horaire. J'ai parlé de l'horaire comme rythme à l'intérieur d'une journée, donc d'une journée rythmée, mais il reste évidemment une autre question qui est tout aussi vitale, qui est celle de la régularité dans les longues suites de jours, que j'appellerai le grand rythme. Il y a le petit rythme, qui est le rythme de la journée, il y a le grand rythme, qui serait, disons, le rythme des saisons. Eh bien, j'imagine pour ce problème du grand rythme, deux conceptions. La première, je l'appellerai une conception épicurienne du rythme. C'est-à-dire, chaque jour, un peu de travail, ou un travail modéré, un travail aéré, un horaire sage, réaliste, large, qui fait à l'avance la part des choses, des dérangements, mais que ce peu soit implacablement et rigoureusement reconduit sans exception tout le long de l'année. Le caractère modéré, pour ça je le disais, épicurien du rythme journalier implique en revanche une contrainte absolue que le travail soit mené tout le long de l'année de cette façon. Et en face, il y aurait alors le rythme contraire. Je n'ai pas trouvé de bons mots à opposer à épicurien, et en attendant mieux, d'une façon je crois très impropre, je l'appellerai par goût de la symétrie le rythme orphique, qui serait un rythme qui fait succéder des périodes d'assaise rigoureuse à des périodes de débordement, de lâcher dionysiaque, de fait absolu. C'est une opposition et une succession qui semble avoir été connue des sociétés grecques antiques, qui étaient fondées, semble-t-il, effectivement, sur l'opposition, non pas entre l'ascèse, mais disons la modestie des plaisirs quotidiens, ce qu'on appelait précisément askésis, non pas ascèse, mais disons l'exercice au sens modeste et régulier du travail, et d'autre part la fête télotée, askésis télotée. Alors on peut concevoir un grand rythme qui fait alterner des périodes de travail intense et à des périodes de fête. Alors, bien sûr, quitte à décevoir le suspense du choix, et la bonne solution paraît se situer dans une combinaison modérée des deux rythmes, c'est-à-dire un rythme épicurien, en gros, mais qui comporte des pauses. Un horaire régulier avec à certains moments des arrêts, des suspensions, des changements. Alors pourquoi ces pauses? Pourquoi introduire des pauses dans le rythme régulier? Eh bien parce que je pense qu'il faut périodiquement, ça c'est très lié à l'écriture, hein, il faut périodiquement reconstituer en soi l'envie de travailler. Et pour reconstituer l'envie de travailler, d'écrire, il faut s'arrêter de travailler à certains moments. Et Flaubert dit, par exemple, « Je vais me mettre à travailler, enfin, enfin, j'ai envie, j'ai envie. » Eh bien, personnellement aussi, j'éprouve cette envie, parfois, et notamment, alors là, à l'échelle quotidienne, je dirais que le soir, après un dîner, avec un ami ou des amis, vers 11h du soir, c'est-à-dire après une pause donc dans le travail, j'ai envie de rentrer travailler. J'ai envie de rentrer travailler parce que j'ai été séparé de mon travail par la soirée et bien souvent par l'après-midi qui a précédé. Et j'ai envie de rentrer travailler, ce que d'ailleurs je ne fais pas, bien entendu, par illusion de fatigue, en reportant le travail au lendemain matin avec beaucoup de risques. En réalité, à ce moment-là, le travail est comme la figure de l'intériorité désirable, l'intériorité qui apaise, qui ordonne, qui affermit. C'est ce que j'appelle le moment métaphysique. En général, personnellement, justement, vers 11h du soir, j'ai un moment métaphysique. Et c'est d'autant plus, ça pose d'autant plus de problèmes que ça me saisit à ce moment-là dans des endroits qui sont des endroits de haute socialité, des cafés, voire des fêtes. Et c'est le moment où j'ai une envie métaphysique. Cette envie métaphysique, cette envie d'intériorité, qui est symbolisée par la lampe et par le silence. Alors, pour conclure ces remarques sur la vie méthodique, je voudrais rectifier une impression éventuelle que vous pourriez avoir, celle que tout ce dispositif est mis en place en vue d'une rentabilité sociale de l'œuvre, que comme s'il s'agissait d'une recette pour faire une œuvre et donc pour réussir, plus ou moins implicitement, auprès du public. Alors, bien entendu, c'est beaucoup plus subtil. Certes, quand on met en place tout ce dispositif de vie quotidienne, il y a un calcul, il y a une tendance au calcul, il y a même une certaine tentation de comptabilité, Mais ce calcul n'est pas un calcul d'échange. Il ne s'agit pas de mettre en place un système d'assaise contre un espoir de succès. L'œuvre est une valeur, un objet éthique, et le travail de l'œuvre est donc une conduite de type initiatique pour atteindre non le succès, mais ce que j'appellerais, compte tenu de l'existence nietzschéenne de ce mot, pour atteindre une vie noble. Pour atteindre une vie noble. C'est l'initiation à une vie noble. Et cela a été dit, me semble-t-il, d'une façon frappante par Proust, qui met en garde contre l'image de l'échange. Quand il dit dans Contre Sainte-Beuve, un écrivain qui aurait par moment du génie, c'est-à-dire qui en fait travaillerait, enfin des moments d'inspiration liés au travail, un écrivain qui aurait par moment du génie pour, il souligne, pour pouvoir mener le reste du temps une vie agréable de dilettantisme mondain et lettré, est une conception, la comparaison est charmante, pour ça je vous la donne, est une conception aussi fausse et naïve que celle d'un saint ayant la vie morale la plus élevée pour pouvoir mener au paradis une vie de plaisir vulgaire. Et voilà donc pour le premier volet de la seconde épreuve que j'ai appelée la vie méthodique. Et j'aborde tout de suite la partie B de cette seconde épreuve que j'intitule la pratique, disons la praxis pour être précis, la praxis d'écriture. Alors maintenant, il s'agit de la pratique proprement dite de l'écriture, jour après jour. C'est-à-dire que l'épreuve du temps et de la patience devient maintenant plus précise et plus topique. C'est-à-dire que on suppose les problèmes de la vie méthodique à peu près réglés, et d'ailleurs ils peuvent se poser dans un autre champ que celui de la littérature, et maintenant on va passer du cadre temporel, spatial, au corps de l'écrivain en train d'écrire, et qui est affronté par la main à la feuille blanche. Alors, il y a une question préalable que je vais poser, et cette question est la suivante. Peut-on, ou même doit-on, lire, c'est-à-dire faire des lectures, pendant qu'on s'adonne à un travail d'écriture? C'est-à-dire, quand on entre en écriture, comme on dit entrer en retraite, peut-on continuer à lire et à pratiquer la lecture? Est-il nécessaire que l'égoïsme de l'écrivain aille jusqu'à nier les autres livres et, par métonymie, d'une certaine façon, toute la culture pendant qu'il écrit? Alors, je voudrais rappeler qu'à l'origine individuelle de l'écriture, il y a effectivement un amour du livre, pas il y a un amour de l'objet livre. Il y a un goût esthétique pour un type d'objet qui est le livre. Et je crois, moi, que c'est très important d'avoir cette espèce d'idéal esthétique du livre quand on veut écrire. Et je regrette toujours que dans des textes que parfois on m'envoie, ou disons même dans des thèses, des manuscrits de thèse dont certains pensent, une fois qu'ils ont soutenu la thèse avec succès, certains pensent que, c'est normal d'ailleurs de leur part, qu'ils vont pouvoir en faire un livre, hein, que ça va pouvoir se publier. Eh bien, je regrette toujours que dans ces cas, car on ne pense pas livre, justement. Il faut penser livre. C'est pas la peine d'écrire si on ne pense pas livre. Écrire, c'est voir le livre, c'est avoir une vision du livre, une vision typographique même, presque, du livre. Et la devise, c'est toujours « à l'horizon, le livre ».« À l'horizon, le livre ». Et Kafka avait au livre une sorte de rapport physique, et il explique qu'il y a une chose sûre en lui, qui est précisément son avidité pour les livres. Et il ne veut pas tant les posséder ou les lire que les voir, même dans la vitrine d'un libraire, c'est-à-dire se convaincre de leur existence, une sorte d'appétit dévoyé. D'une manière générale, au-delà du cas de l'œuvre en train de se faire, bon, c'est l'opposition qui est posée entre scripteur, celui qui écrit, et lecteur, celui qui lit. Et ça n'est pas une question de valeur, je dirais, mais de réalisation. C'est pas que le lecteur soit moins bien que le scripteur, c'est pas ça. C'est une question de différence de réalisation. Quand est-ce que je me réalise au mieux de moi-même, c'est-à-dire quand est-ce que je réalise mieux l'autre qui est en moi, est-ce que je le réalise mieux comme lecteur des livres des autres, ou est-ce que je le réalise mieux comme scripteur, comme écrivain? Eh bien, j'ai connu, par exemple, un ami, j'ai eu un ami, que je vois moi maintenant, parce qu'il est loin de Paris et même de la France, j'ai eu un ami qui était un merveilleux lecteur de livres des autres, qui m'a appris beaucoup de choses, à qui je dois beaucoup, et qui cependant n'a écrit, semble-t-il difficilement, qu'un livre de philosophie, qui est d'ailleurs complètement tombé à plat. Et ça, c'est le problème, justement, c'est le problème typique de Socrate. Voilà. Socrate étant la figure de l'agraphique, il est vrai dans une autre opposition que lire-écrire, dans l'opposition écrire-parler. Voilà. Socrate parlait, il n'écrivait pas, c'était donc un agraphique, mais évidemment, il a eu la chance merveilleuse, et c'est peut-être d'avoir eu quelqu'un qui a écrit, disons à sa place pour simplifier. Mais au niveau de l'œuvre en train de se faire et de cette période où j'entre en écriture, est-ce qu'on doit lire? Eh bien, moi je crois qu'il y a une certaine exclusion de la lecture suivie ou de la lecture comme travail. L'écriture chasse la lecture. C'est une question de temps, d'investissement, mais aussi sans doute peut-être celle d'une question plus épineuse et d'une sorte de rivalité. Pas de place pour deux. Pas de place pour deux. Aussi, n'est-il possible de lire pendant cette période d'écriture que des livres lointains et, en quelque sorte, hétérogène à ce qu'on écrit. Dans la mesure où l'écriture veut être active, mot du vocabulaire nietzschéen, donc mot très fort, hein, et pas psychologique, bien sûr. Dans la mesure où l'écriture veut être active, elle doit se protéger du réactif. Encore un mot nietzschéen. C'est-à-dire que l'écrivain doit éviter d'avoir à réagir, sauf pendant la période des matériaux, ce qui est tout différent de la praxis qui est visée ici. Nietzsche, par exemple, dit dans Exeuro, une autre mesure de prudence, ça fait partie de la liste des mesures autodéfense, vous avez cité l'alimentation, le climat, l'équipe de délassement, etc. Alors, une autre mesure de prudence et d'autodéfense, consiste à réagir aussi rarement que possible, et à se soustraire aux situations et aux circonstances où l'on serait condamné à suspendre, pour ainsi dire, sa liberté, son initiative, et à devenir simple agent réactif. Et il donne comme exemple le savant, comme exemple de figure réactive, qui sacrifie l'actif au réactif, le savant, qui ne fait que lire des livres, et il dit quand il ne compulse pas, il ne pense pas. Chez lui, donc chez le savant, l'instinct d'autodéfense s'est effrité. Et évidemment, à l'horizon, mais ça c'est le propre agite, n'est-ce pas, on n'est pas obligé de reprendre ça à son compte. Lire pour Nietzsche est une occupation décadente qui ne doit pas prendre le temps de l'actif. Et, bon, exemple, selon sa mythologie personnelle des moments de la journée, enfin, etc., il écrit « Lire un livre tôt le matin, au lever du jour, dans la prime fraîcheur, dans l'aurore de sa force, voilà ce que j'appelle du vice. » Parce que cet extrême matin, c'est le matin de la force la plus intense, de l'actif pur, c'est-à-dire, sinon d'écriture, tout au moins de la pensée. Alors, ce conflit lire-écrire, moi je l'interprète de la façon suivante. Et cependant, langage, c'est ça, c'est cette situation énigmatique de quelque chose qui n'est pas de la parole et qui est tout de même du langage. Et bon, je crois que l'écriture arrête l'hémorragie de l'imaginaire, ça je le crois vraiment. Je crois que la fonction psychique au sens freudien, c'est-à-dire dans l'appareil psychique, dans l'économie psychique, dans la topologie psychique, Freudo, lacanienne, l'écriture serait quelque chose qui reste énigmatique, bien sûr, qui arrête l'imaginaire, qui arrête l'hémorragie de l'imaginaire. Je dirais que dans l'écriture, il y a de l'imagination, bien sûr, mais il n'y a déjà plus d'imaginaire. C'est dans cela que l'écriture est une activité hautement symbolique, au sens technique du terme, et par là même, elle a résolu le problème de l'imaginaire. Et le cours ici, ce que je fais cette année, c'est précisément une exploration de l'imaginaire de l'écrivain en tant qu'il n'a pas encore écrit. Hein, parce que tout ce que je vous dis là, je vous parle de quelqu'un qui n'a pas écrit, en fait, qui n'a pas encore écrit, et qui est donc dans l'imaginaire de l'écriture. Et si l'écriture commence, elle arrête l'hémorragie devenu pour cet arrêt de l'imaginaire, je parlais d'une maille qui filait, n'est-ce pas? La lecture qui est ordre de l'imaginaire, c'est, on prend un livre et c'est comme une maille qui file à l'infini. Eh bien, du temps où j'étais enfant, mais je ne sais plus du tout ce qu'il en est maintenant, mais du temps où j'étais enfant, je voyais autour de moi, je veux dire, c'est une image très familière de mon enfance, d'autant que j'ai eu une enfance où j'étais entouré de femmes, ma grand-mère, ma tante, ma mère, je voyais autour de moi les femmes, d'autres même, qui étaient obsédées par le risque d'un accroc fait à leurs bas. Les bas qui étaient tissés, il n'y avait pas de nylon à cette époque-là, je ne sais pas comment sont faits les bas maintenant. Mais à l'époque, l'un des grands problèmes de la femme, c'était que une maille du bas ne file pas. Les mailles se mettaient tout d'un coup à filer le long du bas. Et je vois encore le geste un peu familier, un peu trivial de certaines femmes, geste nécessaire par lequel la femme mouillait son doigt dans sa bouche et l'appliquer sur la maille pour la stopper en la cimentant de salive. Au reste, il y avait encore à cette époque-là, je me rappelle qu'il y en avait une tout près de notre appartement, rue de Seine, près de la rue Jacques Callot, il y avait une toute petite échoppe de stoppeuses, c'est-à-dire des ouvrières qui ne faisaient que stopper des bas, voilà, les pièces de vêtements. Eh bien, je dirais que l'écriture, c'est ça. C'est le doigt posé sur l'imaginaire de la culture et qui stoppe cet imaginaire. Et l'écriture, c'est en quelque sorte l'immobilisation de la culture. D'où, je crois, une sorte de nécessité, au moment d'entreprendre l'œuvre, de faire cesser la lecture et de réaliser un plan de lecture. Voilà. Eh bien, maintenant, j'aborde un autre problème. Dans la longue patience de la fabrication d'écriture, jour après jour, il y a deux régimes, deux modes de difficulté. Le premier type de difficulté est liée au départ, au démarrage de l'œuvre. C'est autre chose que son projet. Enfin, le projet reste. On admet que le projet a été posé, admis, mais ensuite il faut démarrer l'écriture. C'est le problème d'inauguration du travail. Deuxième régime de travail, une fois que l'œuvre a démarré, c'est la vitesse de croisière et les accidents qui affectent cette croisière. Les traverses, des dépressions et des imaginations. Alors je vais m'occuper d'abord des démarrages. C'est un moment qui a souvent retenu l'intérêt des historiens de la littérature qui se sont effectivement souvent intéressés au démarrage de l'œuvre d'un écrivain. Comment naît, comment part une œuvre? Et donc par là même, puisque les historiens de la littérature s'en sont beaucoup occupés, c'est un moment mythique, même si, pour celui qui écrit, il est très réel et douloureusement réel. Car une œuvre, c'est une chose difficile à commencer, à inaugurer. Une forme que prend souvent mythiquement ce démarrage de l'œuvre, c'est la notion de crise. Alors, je ne sais pas quelles sont les histoires de la littérature française qui sont actuellement en usage dans les classes secondaires, ni même si on y fait encore de la littérature française. C'est tout très bien cela. Mais si je me réfère à un manuel célèbre, le Castex sur Air, qui est à la fois parfaitement mythologique et tout à fait bien fait, il y a une chose surprenante, et même cocasse, par sa régularité, c'est un vrai tic du manuel, qui est en plusieurs volumes par siècle, hein. C'est que la vie de presque tous les écrivains français est articulée par une crise centrale, même si cette crise ne se situe pas au milieu de la vie. Et cette crise, de cette crise découle, on voit très bien ça sur les schémas, découle un renouveau des œuvres. Enfin, il y a des œuvres, l'écrivain produit des œuvres, il y a une grande crise et alors il produit des œuvres nouvelles. C'est-à-dire que l'œuvre triomphante part régénérée d'une crise. Vous voyez bien sûr tout l'impact mythique et quasi religieux, n'est-ce pas, de cette image. Je ne peux pas vous servir du tableau parce que il y a trop de boutons et j'aurais peur de produire un gag ou un analogue à ceux des Marx Brothers si je maniais ces boutons. Mais j'aurais pu marquer au tableau, vous auriez vu comment, n'est-ce pas, dans le Castex sur Air, presque tous les grands écrivains français racontent un peu leur vie, commencer, et à un moment, il y a un schéma qui, visuel, comme ça, c'est une grande flèche, la grande flèche, avec la naissance à un bout et puis la mort à l'autre bout, bien sûr. Et à un certain moment, au milieu, mais pas forcément au milieu, il y a un rond, et c'est la crise. C'est un rond fatigué. Et c'est un rond promotionnel, car c'est ce rond qui fait de l'écrivain un grand écrivain. Car les rares biographies où il n'existe pas ce rond de la crise, ont l'air tout à fait minables. Ce sont des auteurs déshérités et paumés qui n'ont même pas su mettre dans leur vie une crise créatrice. Ce ne sont pas des héros de la littérature, ce ne sont pas des martyrs de l'enfantement. Alors, les types de crise sont extrêmement variés, puisqu'il faut que chaque écrivain ait sa crise. Par exemple, il y a des crises anecdotiques, c'est-à-dire des accidents de la biographie. Baudelaire, crise. Sa mère se remarie, inacceptant. Mais vous n'empêche, c'est la crise. Daudier, 1830, et l'année cruelle. Souci d'argent, mariage de sa fille adorée. Hugo, 1843, mort de Léopoldine. Alors Hugo est un écrivain très riche parce qu'il aura deux crises. Une crise un peu plus tard. Flaubert, 1843, maladie nerveuse. Stendhal et Gide, voyage décisif. Découverte de l'Italie, 1800, Stendhal. Découverte de Biskra, 1893, Gide. Il y a aussi les crises passionnelles et sentimentales. Lamartine, 1816, crise sentimentale. Musset, 1833, crise sentimentale. Apollinaire, 1901, idylle rhéname. Et puis il y a les crises politiques ou historiques. Les exils, Madame de Staël, Hugo, 1851. L'affaire Dreyfus, pour Barrès et pour France. Il y a aussi, et pour finir, disons, les crises spirituelles. Ça, ce sont les meilleurs. Par exemple, Chateaubriand, c'est le retour à la foi, à la mort de sa mère. Renan, crise spirituelle. Taine, crise morale, 1870. Alors, le mythe de la crise féconde est si nécessaire au bon fonctionnement de la littérature, dans ce type de manuel, que parfois, on la donne sous forme d'une sorte de joker qui peut prendre toutes les valeurs et tous les contenus. Et alors à ce moment-là, on parle simplement de crise intérieure. Sainte-Beuve, il y a un rond avec crise intérieure. Ou Verlaine, il y a année de crise. Alors la crise dans cette optique est évidemment une valeur romantique. Aussi, chose très curieuse, dans le XXe siècle, c'est pas tout ça, tous les autres écrivains que j'ai cités, en fait, c'est des écrivains du XIXe. Mais pour le XXe siècle, pour le lycée, tout au moins le lycée d'autrefois, de mon temps, ça n'était pas un bon siècle, le XXe siècle. C'était difficile, dangereux, moderne, on parlait très très peu du XXe siècle. Eh bien, dans le XXe siècle, il y a de moins en moins de crises. Chose curieuse. Alors, face à cette mythologie, personnellement, je ne conteste pas qu'il y ait parfois dans la vie d'un écrivain un rapport profond entre certains événements, disons critiques, effectivement, et l'inauguration d'une nouvelle œuvre, d'une œuvre nouvelle. Mais ce qui est récusable, c'est évidemment le caractère systématique de ce recours, et surtout son caractère explicatif simple, non dialectique. Il est certain, par exemple, que la mort de la mère de Proust a recouvert une crise, c'est le cas de dire, une crise profonde du sujet Proust. Mais, d'une part, la recherche du temps perdu n'a démarré que plusieurs années après cette mort, et pendant ces années, Proust a continué à vivre, entre-temps, et à écrire même. Pas la recherche, mais il a continué à écrire. Et d'autre part, on ne peut dire que le chagrin ait produit la nouvelle œuvre. Il y a eu des relais extrêmement complexes, vous le savez. Aussi, on voit très souvent dans ces mythologies littéraires une même crise, ou une crise qu'on suppose vraiment avoir existé, qui est affublée d'explications absolument hétérogène pour une même crise, selon les auteurs. Par exemple, Mallarmé, on nous dit qu'il aurait eu une grande crise en 1866, ou autour de 1866. Mais on donne de cette crise des explications absolument différentes. Par exemple, il y a une explication de type psychiatrique. Mallarmé aurait à ce moment-là frôlé la psychose. Il aurait eu des troubles nerveux, de l'hypochondrie, de la mélancolie, et c'est le moment où il a été consulté à Avignon un médecin, le docteur Béchet, B-C-H-E-T. Mais de cette même crise, on donne une toute autre explication, une explication métaphysique, qui est en général l'explication des critiques littéraires. Mallarmé, à cette époque-là, aurait découvert le néant. C'est-à-dire qu'il aurait perdu la foi chrétienne. Pas ça, c'est là. C'est vraiment la crise en or. C'est quand on perd la foi, quand on l'acquiert. C'est vraiment le titre même de la crise. Et il aurait à ce moment-là découvert que l'homme et l'univers étaient de vaines formes de la matière, et il aurait été guéri de cette crise métaphysique, de cette crise de nihilisme, finalement, par la lecture de Hegel. Il aurait à ce moment-là trouvé une nouvelle foi, et folie, consciente et athée, et il aurait renoncé à la mesquine individualité qui, se forçant à concevoir une œuvre immense, architecture éternellement ordonnée, en correspondance avec celle de l'univers, c'est le livre dont j'ai parlé. Donc voilà une image tout à fait mythique du démarrage, qui est la crise. Un second démarrage, ou une seconde forme du problème du démarrage de l'œuvre, c'est de concevoir la période qui précède le démarrage de l'œuvre comme un mouvement compliqué d'hésitation, de tentative, d'échec, un peu comme un moteur qui cherche à partir, pas et qui a dératé, qui n'arrive pas à prendre. Et puis, tout d'un coup, évidemment, risque d'être assez mythique, mais tout d'un coup, le moteur démarre, ça tourne. C'est ce que j'ai appelé le « ça prend ». L'œuvre prend, je l'ai dit mille fois, comme une mayonnaise qui prend. Il y a des mayonnaises qui... Encore une fois, tout ça c'est fait de mes souvenirs d'enfance. Je ne sais plus comment on fait les mayonnaises aujourd'hui, mais quand j'étais enfant, les mayonnaises, ça se ratait. Et c'était d'ailleurs finalement très beau, la possibilité de rater une mayonnaise, parce que ça donnait beaucoup de prix à la mayonnaise réussie. Et bon, j'ai des souvenirs comme ça de mayonnaise qui ratait. On essaye de rattraper en remettant encore un jour ou deux, etc. Donc ça prend. La mayonnaise prend. Alors, l'état antérieur au ça prend est évidemment un état de déliaison, de non-liaison des matériaux, des fragments, des bouts possibles d'œuvres sont là, hein, c'est ce qu'on appelle la préparation, mais on n'arrive pas à lier ces matériaux et à leur donner une tenue. Et Tolstoï a connu ce problème pour Guerre et Paix. Il avait bien dans la tête des personnages fictifs, mais il ne pouvait pas les lier. Et il disait, c'est mauvais, ça ne vient pas. Alors il disait pas, ça ne prend pas, mais la même chose, il disait, ça ne vient pas. Et alors on a pensé que pour Guerre et Paix, le déclic qui a fait que la mayonnaise a pris, ça a été la lecture des Misérables de Hugo. Enfin, on a pensé que c'est ça qui avait fait prendre les matériaux qui lui avaient permis d'écrire Guerre et Paix. Mais ça me paraît un déclic assez vague parce que pour cette liaison des matériaux, il a, en réalité, Tolstoï a peiné toute une année, en 1865, et enfin, d'un coup, le 20 octobre, il peut dire, ça marche, ça prend, ça marche. Alors, parfois, sans doute, ce sont des sujets, des questions différents qui entrent en concurrence, et cette concurrence produit un blocage. C'est parce qu'on a trop de projets dans la tête, qu'on est immobilisé, on est bloqué. Et on a la sensation obscure que ça se lit quelque part, tous ces sujets se lient quelque part, et on ne sait pas où. Et on attend la manifestation de ce lien, de cette espèce de lieu géométrique. Et pendant tout le temps qu'on n'a pas trouvé ce lien, on a le sentiment très douloureux, parce que très stérile, du ça n'est pas vraiment ça. Ce que je cherche, ce que j'essaye, non, ce n'est pas vraiment ça. Et en général, d'ailleurs, je crois que on a un sens, l'écrivain a un sens très sûr de le sentiment, l'intuition qu'il a du serpent et du serpent pas, me paraît une intuition juste. Alors, le serpent peut être vécu comme miraculeux. Et mythiquement, c'est-à-dire souvent rétroactivement, il prend la forme du surgissement brusque et immédiat, c'est l'illumination ou le jet. Robert dit, à 40 ans, un bon sujet de roman est celui qui vient tout d'une pièce d'un seul jet. Je ne suis pas très sûr que ce soit vrai, mais enfin, disons que souscrit à cette idée du déclic. Et c'est comme une ivresse. Parfois, on se dit, si longtemps on a été bloqué, et cependant si proche de l'œuvre, que quelquefois, on se dit qu'avec un peu de vin, ou une drogue prise ce jour-là, ça partirait. Quelqu'un qui sèche sur une œuvre, et qui, par hasard un jour, boit un peu de champagne, cette dose difficile où on est enivré sans être malade, eh bien, à ce moment-là, il y a une facilitation et tout d'un coup, il lui semble trouver la clé de l'œuvre à faire. Mais en général, d'ailleurs, ça ne tient pas. Mais de toute manière, le déclic que ça prend est vécu comme une grâce, puisque ça peut venir précisément d'une drogue. Et le serpent fonde évidemment une sorte de coulée nouvelle de l'écriture, c'est-à-dire qu'avant, la plume s'arrête sans cesse, mais ensuite, quand ça a pris, la plume va plus vite. En tout cas, une course plus égale, et on a trouvé ce qu'en paléographie, on appelait, c'est une notion précieuse parce que subtile, dans la paléographie, c'est-à-dire dans l'étude des écritures du Moyen-Âge, n'est-ce pas, quand il n'y avait pas d'imprimerie, les œuvres étaient copiées par des moines, donc il y avait une technique d'écriture, de reproduction par l'écriture manuelle, et une technique donc avec des concepts opératoires de cette technique d'écriture, et il y avait une notion très importante, certains d'entre vous le savent sans doute, qu'on appelait en latin le ductus. Ductus. C'est, ductus ça veut dire conduire, n'est-ce pas? C'est la conduction, la duction du trait, c'est exactement le codage du sens dans lequel le trait doit se faire, le trait qui fait partie d'une lettre doit se faire, hein. C'est le ductus, et c'était codé au Moyen-Âge. Si on avait à écrire une lettre comme L, il fallait partir d'un certain endroit, suivre un certain ductus, et aboutir à la fin de la lettre. Et le ductus fait absolument partie de la graphie orientale. On ne peut pas écrire le caractère chinois, par exemple, sans se soumettre au ductus. Eh bien, en écriture aussi, au sens métaphorique, on peut trouver tout d'un coup le ductus. Alors, un tel type de démarrage de la grandeur, quoique encore énigmatique, je veux dire, dans le cadre des recherches d'histoire littéraire, se trouve exemplairement, j'en ai déjà parlé, je vais en reparler, chez Proust. Quand est-ce que Proust a eu l'idée de la recherche? Quand est-ce qu'il s'y est mis? Quand est-ce que l'écriture de la recherche a pris? Eh bien, les éléments du dossier, du suspect, sont les suivants actuellement. Il y a d'une part, pour répondre à ces questions, ou essayer d'y répondre, il y a les données biographiques, aussi minutieuse que possible, et notamment il y a un livre d'Henri Bonnet, un universitaire, qui s'appelle, le livre n'est pas tout récent, mais qui est tout de même à jour, relativement à jour, qui s'appelle Marcel Proust de 1907 à 1914. Il est apparu chez Lisée en 1971, c'est deux volumes, et c'est très intéressant pour qui aime Proust, parce que c'est presque Proust au jour le jour, pendant la période où ça a pris, n'est-ce pas, 1907-1914. Et alors, plus récemment, deuxième source d'information que je vous signale, pour ceux qui s'intéressent, en tout cas universitairement à Proust, connaissent ça, bien entendu, C'est tout récent, alors ce sont des recherches extrêmement passionnantes et très bien conduites du Centre d'histoire et d'analyse des manuscrits modernes, en abrégé CAM, C-A-M, dont le siège est à l'École normale supérieure 45 rue d'Ulm, où on procède, une petite équipe de chercheurs procède au dépouillement des cahiers de Proust. Et là, on commence à voir des lueurs, alors vraiment très nouvelles, sur la gestation, la formation de la recherche. Alors, biographiquement, à première vue, il y a une coupure apparente, très nette, dans l'œuvre de Proust, en 1920. C'est-à-dire, entre la composition, la structuration ou la réunion du Contre-Sainte-Beuve, volume manuscrit qui est soumis à l'éditeur, du Figaro à Calmette, au Figaro, qui est refusé. Et aussitôt après, il y a attesté le démarrage quasi foudroyant de la recherche. Un travail intensif d'écriture qui se mène donc à partir d'octobre 1920. Alors j'avais induit dramatiquement, alors évidemment j'étais très content de pouvoir donner une figure dramatique à ce problème, j'avais induit qu'il y avait une sorte de blanc mystérieux. On pouvait concevoir ça un petit peu comme un roman policier, comme un suspense, un thrilling pour écrivain, entre un blanc mystérieux, entre août 1909, refus du Sainte-Beuve, et octobre, démarrage, semble-t-il, foudroyant de l'écriture de la recherche. Donc le blanc mystérieux, c'était ce mois énigmatique entre tous, septembre 1909, que je me représentais comme une sorte d'écluse, de sas, au cours duquel on passait de l'essai, Sainte-Beuve, même comportant déjà des fragments romanesques, au roman, c'est-à-dire à la recherche. Alors, les rapports du Sainte-Beuve et de la recherche sont extrêmement complexes. Vous savez que ça se chevauche, et de plus, ce que Proust conçoit d'abord comme Sainte-Beuve, c'est déjà de la recherche, et en même temps, encore en 1911, ce qu'il continue à appeler Sainte-Beuve est déjà uniquement et pleinement de la recherche. Donc j'avais cette plus dramatique de ce mois absolument énigmatique, septembre 1909, où une très grande œuvre, tout d'un coup, a pris. Et évidemment, j'ai été gentiment rappelé à l'ordre universitaire, dont j'ai parlé, donc beaucoup plus compétents que moi, qui m'ont fait remarquer que cette seule annulation du mois de septembre 1909, ce suspense était un peu fictif et un peu forcé, et que la recherche avait commencé, on le sait maintenant, par bribes bien avant. Alors, je m'incline toujours devant les érudits, et en même temps, comme toujours, je persiste. Je persiste, c'est-à-dire que je reste persuadé qu'à un certain moment, évidemment je suis obligé de rester dans un certain flou, mais je suis persuadé qu'à un certain moment, il y a eu chez Proust un resserrement du projet, démarrage et une sorte de cristallisation active. Ça ne s'est peut-être pas produit en un mois, le mois de septembre, j'en sais rien, mais certainement dans quelques mois, dans l'espace de quelques mois, il y a eu une cristallisation qui a permis le démarrage de la recherche. Et donc un démarrage qui finalement apparaît presque foudroyant. Puisqu'à ce moment-là, des pages, notamment des pages du côté de chez Swann, sont écrites en quelques semaines, et d'ailleurs la graphie elle-même change, ce qui est très important comme indice. La graphie, d'un coup, se resserre, se complique, se surcharge, elle devient beaucoup plus rapide. Alors, malgré, donc, ou à cause, ou à côté de cette mutation biographique, il est évident que le Sapran de l'œuvre de Proust n'a pu se produire que sous la pression de certaines découvertes créatives ou esthétiques. Il ne s'agit pas, je pense, de détermination biographique. Je ne pense pas que ça détermine le sacrant, les circonstances biographiques, mais ce sont toujours des découvertes d'ordre esthétique qui changent le régime de préparation de l'œuvre. Alors, elles sont évidemment plus difficiles à repérer qu'une circonstance, et elles sont plus difficiles à localiser dans le temps. J'en ai suggéré quatre. Je vais malheureusement être obligé de mal couper mon cours. Je vais même vous en dire une. Ces quatre circonstances. Alors, l'une de ces circonstances, donc proprement esthétiques, c'est pas créatives, ou disons structurales, qui ont pu faire démarrer la recherche, c'est une suggestion de ma part. Enfin, je n'ai pas de preuve, bien sûr. Ce serait, donc, la première circonstance créative, ce serait la découverte des noms propres, avec un grand T. C'est-à-dire des bons noms. Des noms droits, des noms propres qui conviennent. Tels que maintenant, quand nous lisons la recherche, leur réseau nous paraît comme la nature même de la recherche, la nature sociale dans sa vérité. Je pense que tout le monde est d'accord pour constater que les noms propres de la recherche sont d'une telle vérité, si on peut dire, d'une telle réussite qu'on ne peut pas les changer et qu'on ne peut pas imaginer que Madame Verdurin s'appelle autrement que Madame Verdurin. Enfin. Donc c'est cette découverte des noms propres qui aurait été un élément actif de la cristallisation. Alors évidemment, on a fait observer que certains noms importants n'ont été trouvés qu'après le démarrage de la recherche. Par exemple, Saint-Loup ne s'appelait pas d'abord Saint-Loup, il s'appelait Montargis. Et il s'est appelé Saint-Loup qu'à partir de l'été 1913, donc après la période cruciale. Charlus ne s'est appelé Charlus qu'en 1914, avant il s'appelait Quercy. Alors je crois tout de même, vous voyez, je persiste toujours, je crois cependant qu'à un certain moment, il y a eu chez Proust l'exigence, non peut-être pas de tel ou tel nom, mais d'un système des noms propres, qui définit chez l'écrivain, chez le romancier, l'euphorie du romanesque. Trouver les noms, c'est visiblement décisif pour un romancier. Trouver les noms, c'est décisif. Et au fond, bien de très bons romans nous paraissent imparfaits, je parle du roman même du passé, nous paraissent imparfaits parce que les noms propres nous gênent un peu. Et au contraire, un très bon roman, c'est probablement une illusion, un après-coup, mais un très bon roman, nous trouvons que les noms propres sont parfaits. Et ce que je vous dis là, ça a été exprimé, enfin, très spontanément par Flaubert, car Flaubert, pendant son voyage en Orient, était, vous le savez, obsédé par le pinsum que son ami, ses amis lui avaient donné à faire, un roman pour corriger l'échec de la tentation de Saint-Antoine, en plus de, pour corriger le mauvais jugement que ses amis avaient porté sur le manuscrit de la tentation de Saint-Antoine, ses amis lui avaient suggéré de commencer un autre roman plus simple et plus terre à terre et plus social en quelque sorte. Et c'est ce roman qu'il appelle le pinsum à faire, et ce pinsum, ce sera Madame Bovary. Or, pendant ce voyage oriental, aux confins, Flaubert se trouve aux confins de la Nubie inférieure, au bord du Nil, avec Maxime Ducamp. Vous voyez le décor, vraiment loin des problèmes de création, des problèmes de roman, et pourtant c'est à ce moment-là que tout d'un coup il jette un cri, et il dit « J'ai trouvé, Eureka, Eureka, je l'appellerai Emma Bovary. Et voilà, le roman est parti. Bien, je continuerai samedi prochain.